Vous êtes sur RFI, il est 15h à Paris, 13h en temps universel, 10h à Brasilia.
Florence Tomaso.
Bienvenue sur Radio France Internationale. À la une de ce journal, le drame en Équateur avec ce séisme qui a frappé la côte ouest du pays. Une secousse de magnitude 7,8 qui a surpris les habitants dans leur sommeil. On compte au moins 77 morts. Le président coréen a appelé son peuple à ne pas céder à l'affolement. Autre séisme de l'autre côté du Pacifique, au Japon, où les secours confrontés à de violentes intempéries peinent à atteindre les populations sinistrées. Des dizaines de milliers de personnes ont été évacuées de l'île de Kyushu, où l'on craint de nouvelles répliques. Les députés brésiliens ont rendez-vous au Parlement de Brasilia en début de soirée. Ils vont se prononcer pour ou contre la destitution de la présidente Dilma Rousseff. De nombreuses manifestations sont prévues dans tout le pays. Deux camps s'affrontent, détail dans ce journal. Et puis François Hollande en Égypte ce soir abordera-t-il la question si sensible des droits de l'homme? Les ONG l'espèrent, ainsi qu'une famille française dont le fils est mort en détention au Caire il y a 3 ans. Nous entendrons le témoignage de la mère de cet homme disparu. Il était parti pour un voyage au Vatican. Le président équatorien Rafael Correa a décidé d'écourter cette visite pour rentrer à Quito après le violent séisme qui a frappé l'Équateur. Une secousse de 7,8 qui a frappé la côte ouest en pleine nuit, provoquant la panique chez des milliers d'habitants. Le dernier bilan est encore provisoire. Il fait état d'au moins 77 morts, plus de 600 blessés. Christophe Paget, bonjour.
Bonjour.
De nombreux bâtiments se sont effondrés. Les dégâts matériels sont considérables.
Oui, les maisons se sont écroulées, les réverbères sont tombés, les gens sont complètement désespérés. Il y a des gens enterrés sous les décombres, explique cette habitante de Manta, une des villes les plus touchées. L'aviation civile a dû fermer l'aéroport en raison de graves dégâts à la tour de contrôle, car les destructions sont considérables dans le sud-ouest, la zone de l'épicentre. Le maire de Pedernales indique ainsi que toute la ville s'est effondrée. Il signale également des pillages. Mais les dégâts sont aussi importants dans des lieux éloignés de l'épicentre, comme la ville portuaire de Guayaquil, la plus peuplée du pays, où un pont et le toit d'un centre commercial se sont effondrés. La capitale Quito semble, elle, relativement épargnée, avec quand même des quartiers privés d'électricité et des murs de magasins fissurés. Le président Rafael Correa a annoncé le déblocage d'une aide budgétaire de 600 millions de dollars pour faire face à l'urgence. Il appelle la population au calme et à l'unité. L'état d'urgence a été décrété dans les 6 provinces les plus affectées, dont le sud-ouest et le nord-ouest. 10 000 soldats y ont été envoyés, mais le travail des secours est ralenti par d'importants glissements de terrain qui ont provoqué la fermeture de 12 axes majeurs. Le Venezuela et le Mexique ont de leur côté envoyé du personnel et de l'aide matérielle.
Merci Christophe Paget. Au Japon, une autre zone du Pacifique impactée par des séismes à répétition. Les recherches de rescapés se poursuivent sur l'île de Kyushu, dans la région de Kumamoto, qui ont fait 41 morts. Des séismes en série. Les pluies qui se sont abattues sur la région laissent craindre de nouveaux glissements de terrain. Ce dimanche, 62 700 foyers précisément étaient toujours sans électricité. Plus de 300 000 habitations étaient privées d'eau courante. À Kumamoto même, la vie reprend peu à peu son cours. Mais le retour à la normale va prendre du temps. C'est le sentiment de Kirk Masden, un Américain qui vit au Japon depuis 25 ans et qui enseigne à l'université de Kumamoto.
Les fenêtres de mon bureau sont cassées et l'immeuble dans lequel je travaille est l'un des plus vieux de l'université. Donc nous ne serons sans doute pas en mesure d'y retourner. Il faudra réaliser des travaux pour le rendre plus résistant aux tremblements de terre. Je pense donc que cela prendra beaucoup de temps avant qu'on puisse retourner travailler, en tout cas dans les conditions dans lesquelles on avait l'habitude de travailler. L'autre chose, c'est que les magasins sont à court de nourriture. Dans le centre-ville, il y a peu de supermarchés qui fonctionnent. Je ne pense pas qu'il y ait des gens qui meurent de faim, mais ça devient difficile de trouver de la nourriture dans les magasins depuis le tremblement de terre. Du coup, avec ma femme, on a pu se rendre dans une zone mieux achalandée. On y a acheté tout ce qu'on a pu. On va le distribuer à nos étudiants.
Voilà le témoignage d'un Américain qui réside au Japon. Dilma Rousseff dans l'attente de son éventuelle destitution. Les députés se réunissent ce soir à 18h GMT pour voter ou non cette procédure d'impeachment. Si le Parlement vote pour, ce sera au Sénat ensuite de se prononcer au mois de mai. En attendant, les pros et les anti-Dilma se mobilisent dans les grandes villes du pays. On va d'abord écouter l'un de ceux qui veulent voir partir la présidente du Brésil. Il s'agit de José Carlos Aleluia, député démocrate, le parti de droite.
Esta mudança no Brasil...
Le changement qui s'annonce au Brésil va avoir un impact sur toute l'Amérique latine, dans la foulée de ce qui s'est déjà produit en Argentine et de ce qui va certainement se produire au Chili lors des prochaines élections. Nous nous battons contre un mouvement populiste qui vise à détruire les institutions. Si rien n'est fait, cela nous mènera tout droit vers un scénario proche de celui du Venezuela.
Nous levaria seguramente ao caminho da Venezuela se nada fosse feito.
Voilà, et on écoute maintenant Enrique Fontana, député du Parti des Travailleurs, opposé, lui, à la destitution. Il explique l'importance de ce scrutin.
Nous sommes en train de vivre une crise politique d'une intensité maximum au Brésil. Il y a plusieurs raisons, mais la principale, c'est que l'opposition n'a jamais accepté le résultat de l'élection présidentielle d'octobre 2014. En d'autres termes, c'est la négation à la règle fondamentale de la démocratie qui est de respecter le résultat d'une élection légitime et qui a été remportée par Dilma Rousseff.
54 millions de votes.
Enrique Fontana, député du Parti des Travailleurs, qui était opposé à la destitution. En Côte d'Ivoire, les services de renseignement ont arrêté le numéro 2 du groupe qui a organisé l'attentat de Grand Bassam. Alou Doumbia a été arrêté à Bamako, et ce grâce à la coopération des services secrets maliens et ivoiriens. Ce Malien de 32 ans a notamment convoyé en voiture du Mali vers la Côte d'Ivoire les membres du commando. Rappelons que cette attaque djihadiste avait fait 19 morts le 13 mars dernier sur cette plage ivoirienne. Les pays exportateurs de pétrole réunis à Doha au Qatar. Aujourd'hui, il s'agit pour la quinzaine de membres, pour la plupart issus de l'OPEP, de négocier un gel de la production afin de dynamiser les prix. Mais l'Iran, l'un des plus grands producteurs, a refusé d'envoyer un représentant. Il n'est donc pas sûr qu'un accord puisse être validé. François Hollande, qui achève sa visite au Liban par une visite à des réfugiés dans la plaine de la Beka, va s'envoler en fin de journée pour l'Égypte. Le président français va s'entretenir avec son homologue, le président Al-Sissi. Au menu des discussions, la situation en Libye, l'économie, avec peut-être à la clé la signature de quelques contrats, mais rien n'est confirmé. Et puis l'épineuse question des droits de l'homme. Plusieurs ONG attendent que le chef de l'État prenne position sur cette question si sensible en Égypte. Une famille française accuse le gouvernement de n'avoir rien fait pour aider cette famille d'un ressortissant français tué en Égypte en 2013, alors que l'homme était emprisonné au commissariat du Caire. Dans cette affaire, beaucoup de questions restent en suspens. Daniel Valo a recueilli le témoignage de Carole Prost, la mère d'Éric Lang, qui est mort au Caire.
C'est d'une voix fragile et empreinte d'émotion qu'elle évoque les derniers jours de son fils. Le 6 septembre 2013, Éric Lang est arrêté à un barrage militaire. Il est incarcéré dans un commissariat du Caire pour défaut de passeport.
J'ai eu le Quai d'Orsay qui m'a dit qu'il était dans une cellule à l'égyptienne, mais que tout allait bien. Puis les jours sont passés et j'ai plus de nouvelles. Jusqu'au dimanche 13, où les gendarmes sont venus chez ma fille, ils m'ont tendu un papier où c'était marqué qu'Éric avait été tué. Ça a été un coup terrible.
Selon les autorités égyptiennes, Éric Lang a été battu à mort par ses co-détenus. Mais cette explication ne suffit pas à la famille de la victime qui dénonce l'inertie de l'enquête, mais aussi le silence des autorités françaises.
Ils ont enterré l'affaire. Pour moi, c'est fini. Moi, j'ai plus aucune confiance en François Hollande et en quiconque.
Pourquoi est-ce que la France ne fait rien, à votre avis?
Parce qu'ils ont trop d'accords. Ils vont pas reconnaître publiquement que mon fils a été torturé, alors qu'ils n'arrêtent pas d'aller en Égypte et être très amis avec le gouvernement égyptien.
Pour la famille d'Éric Lang, l'inertie des autorités françaises contraste douloureusement avec les efforts déployés par l'Italie depuis le meurtre de l'un de ses ressortissants en janvier dernier. Cette semaine, Rome est allée jusqu'à rappeler son ambassadeur au Caire pour dénoncer la lenteur de l'enquête.
Et interrogé sur les accusations formulées par la famille d'Éric Lang, le porte-parole du ministère français des Affaires étrangères a déclaré cette semaine « La France est mobilisée à Paris comme au Caire pour que toute la lumière soit faite sur cette tragédie ». Le Quai d'Orsay ajoute que la France a demandé aux autorités égyptiennes de s'assurer que les responsables de la mort d'Éric Lang seront traduits en justice. Les Italiens appelés à se prononcer par référendum sur une loi qui autorise les forages en mer à moins de 20 km des côtes. Aucune nouvelle autorisation n'est plus donnée, mais le gouvernement estime que les permis déjà accordés doivent pouvoir perdurer. Le sujet oppose les écologistes au milieu des affaires, soutenu par Matteo Renzi, qui s'agace de ce référendum et qui appelle les électeurs à le bouder. L'avalanche qui s'est déclenchée ce matin au Pic du Midi a fait un blessé et deux morts. Trois alpinistes expérimentés originaires du Tarn ont été emportés dans la coulée de neige alors que les conditions météo étaient très mauvaises. Le survivant a aussitôt prévenu les secours, mais ceux-ci n'ont pu que constater le décès des deux autres alpinistes. Les sports avec le tennis, Gaël Monfils et Rafael Nadal s'affrontent en ce moment sur la terre battue de Monte Carlo. Le Français victorieux de Joe Wilfried Tsonga en demi-finale est le premier Français à jouer cette finale depuis Cédric Pioline en 2000. Le match a commencé il y a une demi-heure. Et puis la 34e journée de Ligue 1 avec le dernier match qui se joue en ce moment et qui oppose Nantes à Montpellier.